Voilà. Aura des pâquerettes. C'est le titre, donc c'est le thème de notre méditation ce matin, qui fait sourire à plus d'un. Aura des pâquerettes. On sait ce que c'est. D'ailleurs, ma sœur Anne m'a bien confirmé que ça l'a fait sourire. Aura des pâquerettes. Qui voudrait voler aura des pâquerettes? Alors, quand on dit « aura des pâquerettes », c'est clair que c'est quelque chose de physiquement très bas. La pâquerette étant une petite fleur, donc voir le petit signe ici, qui a été fait par notre sœur Anne, qu'elle a préparé avec tant de soin et d'amour. Or, la hauteur ne qualifie pas seulement la taille des géants, les cimes des arbres ou le sommet d'une montagne ou des gratte-ciels. La hauteur peut qualifier aussi des choses importantes et de qualité. On parle par exemple de hauteur morale, de hauteur de vue, de haute couture, de quoi encore, haute école, il n'y a pas d'altitude, pardon, haute estime, il y a plein, enfin des hauts, des paroles, il y a des hauts. Donc, bref, grandeur, prouesse remarquable, n'est-ce pas? Par opposition, lorsque quelque chose est sans intérêt, sans importance, on va utiliser des images symbolisant ce qui est désolant, voire la médiocrité. Et la pâquerette en est une excellente image. Jésus vient de dire aux disciples d'ouvrir les yeux et de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Et eux se disaient entre eux que c'est parce qu'ils n'avaient pas pris des pains et ce qui attriste Jésus. Bon, ils comprendront, comme nous aussi d'ailleurs, au verset 12, que Jésus ne leur a pas dit de se méfier du levain de pain. Ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Paul nous dit aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, nous avons besoin d'espérer dans cette vie. Mais si c'est seulement dans cette vie, la parole dit que nous sommes bien malheureux. Alors que nous sommes appelés à être heureux, puisque nous vivons dans la promesse d'une abondance que notre Seigneur nous donne. Paul dit cela pour rappeler que grâce à la résurrection du Christ, l'espoir des chrétiens n'est pas limité seulement à cette vie. C'est dire que nous attristons le Saint-Esprit quand nous autres chrétiens ramenons tout à cette vie présente. Jésus est attristé quand nous sommes plus portés aux choses de ce monde plutôt qu'aux choses spirituelles, celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Pharisiens et sadducéens, je ne vais pas m'étaler sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font, c'est évident. Mais quel est donc l'enseignement des pharisiens et des sadducéens? Qu'est-ce ce levain dont les disciples devraient se méfier? Au chapitre 16, au début donc, les pharisiens demandent un signe, et ils ont déjà essayé de demander un signe au chapitre 12 du même évangile. Mais chaque fois, Jésus les renvoie au signe de Jonas, comprenons bien par là la mort de Jésus qu'il allait bientôt accomplir et des bienfaits au bénéfice des croyants. Pardon. Notre foi repose non sur des preuves visibles, mais sur toutes les promesses de Jésus, sans quoi sans quoi elle ne serait plus la foi. L'incrédulité agit comme un mauvais levain qui pollue le message de Dieu et dénature ses vérités. Remarquez, Dieu a beau combler d'un pain excellent, l'incrédulité ou l'incrédule trouvera toujours son mot à dire. Il trouvera ce pain infect. Il trouvera ce pain immangeable. Il nous arrive aussi à nous d'oublier les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas ? Et de le critiquer pour les choses qui échappent à notre logique ou à notre entendement. Voyons un peu ces pharisiens en action. Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet. Comment réagissent-ils ? Connaissons cet épisode. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Le malade est guéri. Le démon est expulsé. Est-ce qu'ils disent « Alléluia ! Ouais ! Wow ! Quelle puissance ! Mais quel homme ! Oh ! Vive Dieu ! » Non. Ils disent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Par jalousie, ils essaient de discréditer Jésus aux yeux du peuple. Ils attribuent son autorité à Satan, ce qui est une accusation extrêmement grave. Ça aussi, ça vole au rat des pâquerettes. Jésus, ailleurs, vient de nourrir 4000 hommes, sans les femmes et les enfants, les pharisiens et les sadducéens, comme si cela ne suffisait pas, lui demandent de leur faire voir un autre signe du ciel, c'est-à-dire quelque chose qui attesterait qu'il est bien le Messie, qu'il est le messager de Dieu. Donc le miracle des pains ne suffit pas. Bon, ah oui, il a nourri les gens. Ah oui, bon, ah oui. Maintenant, oui, tu as fait ça. Viens un peu par là, toi. Fais-nous un signe que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, que tu es vraiment celui qu'on attend. Quelle aberration, n'est-ce pas ? Revoyons, voyons le peuple d'Israël sorti d'Égypte, témoin et bénéficiaire de la puissance de Dieu. Il se décourage dans le désert et commence à critiquer Moïse et Dieu. Pourquoi nous as-tu fait, nous avez-vous fait, bon, il parle de Dieu, de Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a pas de pain, pas d'eau, il n'y a que cette misérable nourriture. Il parle de la manne, cette nourriture miraculeuse que Dieu a bien voulu leur donner. Cette horrible nourriture nous dégoûte. Il y en a marre. Nous voulons retourner en Égypte. Ils étaient témoins des 10 plaies d'Égypte. Ils étaient témoins de la mer qui s'est ouverte. Un petit problème arrive. Il manque d'eau, il manque peut-être, on peut changer un peu de menu. On pense aux merguez, je ne sais pas si on mangeait les merguez à ce moment-là, aux frites, aux voilà, KFC, on pense à tout ça. Et nous voulons retourner en Égypte. Ça y est, Dieu ne fera plus de miracles. Il a fait, oui, une fois, deux fois, 10 fois, 11 fois, mais il ne fera plus. C'est aussi ce qui nous arrive. On a beau recevoir les dons de Dieu, être au bénéfice des soins de Dieu. Soyons honnêtes, quand la réponse tarde à venir, alors que chacun s'examine, qu'est-ce qu'on peut bien dire à ce moment-là ? Où est Dieu ? Est-ce que la parole dit vrai ? Est-ce que Jésus est vraiment le Messie ? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi ? On oublie ce qu'il a fait. On pense qu'il a fait, mais maintenant ça suffit, il a vieilli, il change d'avis. On pense que Dieu est capable de tels changements. Mais non, c'est du solide. Notre espérance, c'est un rocher éternel. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas imaginer Dieu qui commence quelque chose et qui s'arrête en mi-chemin. Moi, je le ferai. Ah oui, oui, t'es mon ami, je vais m'occuper de toi une fois, deux fois, mais comment il commence à téléphoner ? Oh là, celui-là, ça commence à bien faire. Oui, nous, on se fatigue vite. Même si on veut faire quelque chose aux gens. Mais Dieu, quand il a commencé, il le fait bien et éternellement. Les pharisiens, revenons à eux, nationalistes, conservateur rigoureux exige une observation scrupuleuse et sans condition de la loi. Les Sadducéens pro-romains, les gouvernants d'alors, donc les colonisateurs, les Sadducéens donc ne croient pas à la vie après la mort, la résurrection, aux choses spirituelles, ne croient pas aux anges. Ils voulaient dénigrer Jésus en public en lui posant une question piège sur la résurrection, mais Jésus les avait réduits au silence. Et ces deux parties que tout oppose se mettent d'accord quand il s'agit de démolir ce que Jésus essaye de bâtir. Leur cœur se ferme devant la sainteté de Dieu, devant la gloire et la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ils refusent de voir en lui le Messie promis. Voilà grosso modo l'enseignement, le levain des pharisiens et des sadducéens. Voyons les disciples. Jésus veut que ses disciples se méfient donc de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, ces personnes incrédules qui dénigrent le message et les actes de Dieu. Pourtant, ils sont inquiets, même après avoir été témoins d'actes de puissance. Là, ils sont inquiets. Ils se font des soucis. Ils étaient témoins de la bonté, de la générosité du Seigneur, qui est d'ailleurs toujours avec eux. En ce moment-là, Jésus parle, enseigne, agit. Jésus est tout simplement. Mais ils n'entendent pas, ils ne se souviennent pas, ils ne retiennent pas. Jésus les met en garde pour quelque chose de vital, beaucoup plus important que le manque de pain. Le levain n'a rien, nous n'avons rien contre le levain. D'ailleurs, le royaume de Dieu est comme le levain aussi, qui en se propageant, en se développant, gagne le monde entier, gagne toute la farine. Mais Jésus vous veut les préserver de la doctrine destructrice de la foi. Chers amis, frères et sœurs, dans nos manques de pain, de confort, de moyens, n'oublions pas la puissance de Dieu. N'oublions pas la bonté de Dieu. N'oublions pas sa générosité, sa sollicitude. N'oublions pas qu'il est présent. Ce n'est pas quelque chose qui ne dure que l'instant d'un émerveillement que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas quelque chose éphémère, mais quelque chose de durable, de sûr et de solide. Allez, chers amis, il faut voler haut, très haut, spirituellement, en altitude. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, dit Jérémie dans Lamentations. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations 3, 21-23. Jésus était là quand il manquait du pain. Jésus sera toujours là quand le pain viendra à manquer. La solution finale. Pour conclure, les disciples avaient oublié cela. Ah, qu'ils sont stupides, dirons-nous. Ils étaient pourtant habitués au langage imagé. Ils auraient pu deviner, mais non. Heureusement, la bonté de Jésus n'est pas à son terme. Il les met en garde contre l'hypocrisie stérile des pharisiens et le raisonnement naturel du cœur des Sadducéens, voulant se soustraire à la volonté de Dieu et vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire des gens qui veulent se sentir libres. Dangereux comme enseignement. On veut se sentir libre, libre sans la volonté de Dieu. Faire tout comme on veut. Nous avons besoin, nous aussi, d'être mis en garde contre cette hypocrisie et le vivre à sa guise, à notre guise. Abstenons-nous du légalisme des pharisiens, c'est-à-dire des formes religieuses par lesquelles on cherche à se justifier devant Dieu. Nous avons tous besoin de l'intelligence qui vient d'en haut, celle que Jésus seul peut donner, Ainsi, nous pourrons nous éviter bien des ennuis pendant notre pèlerinage. Oh, j'ai envie de dire, pendant notre vol. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bref, le Seigneur, quand il parle, ne ramenons pas tout dans ce monde. Oh, quand il dit ça, vivre dans l'abondance. Oh oui, ça c'est de l'argent, ça c'est du confort. Et quand ça n'arrive pas, eh bien on est un peu perdu, un peu paumé. Ensuite, quand les bonnes choses qu'on attend de Dieu n'arrivent pas, n'oublions pas que Dieu est toujours là. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au dernier jour, le pasteur Jean-Luc a lancé quelque chose sur Facebook. Le dernier jour, le jour dernier, on va voir la suite. Vous avez vu? Dernier jour, ou jour dernier, ou fin du monde, il est là. Donc, suivez-le sur Facebook. Jusqu'à la fin du monde, Jésus est là. Je ne sais pas si c'est au moment où on meurt, jusqu'on vole vers le ciel, ou jusque le monde disparaît, s'explose, Jésus sera là. Job a dit, même dans la poussière, Jésus sera là. Même si je tombe en ruine, Jésus sera là. Quand bien même ma chair tombe, ma chair s'écroule, Jésus sera là. Quand bien même on ne comprend pas, quand bien même on ne sait même plus qu'est-ce qu'on va dire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour parler à notre place. Et oh, qu'il parle bien, le Saint-Esprit, croyez-moi. Merci, chers amis, de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen.